Bon, Sylvie, tu as donné plusieurs définitions de ce que serait l'analysant. J'en ai retenu quatre. Donc le travailleur, qui a déplié Colette Solaire. Le croyant et l'amoureux, que moi j'ai mis sur le même niveau, hein, parce qu'ils sont tous les deux du côté de l'espérance et de la foi en l'autre. Et puis donc le voyageur, j'avoue que je trouve ça assez plaisant. Ça renvoie à la rêverie et ce qui va avec la découverte finalement, quand l'analysant vient, il vient découvrir finalement un territoire inconnu qui est son inconscient. Il me semble finalement, là, de ces différents niveaux que tu as dépliés, ce qui me semblait finalement se distinguer, notamment dans la triple définition de Freud, donc travailleur, croyant, amoureux, moi ce que j'ai retenu finalement, c'est le travailleur, l'analysant et le travailleur. Et que j'ai mis du coup aussi, donc avec ce que tu as mis en conclusion sur l'identité d'enseignant. Et là, ça m'a fait penser à ce que j'avais lu dans la locution de clôture, où Lacan dit qu'il ne peut être enseigné qu'à la mesure de son savoir. Et enseignant, il y a belle lurette que chacun sait que c'est pour s'instruire. Et donc, en voyant là qu'en enseignant, enfin, être enseignant, c'est être au travail de son instruction, au même titre que l'est l'analysant. Je n'ai pas de questions, c'était plus voilà, une série de réflexions que m'ont inspiré ton texte. Alors, quant à celui de Colette, que j'ai donc découvert tout à l'heure, pareil, enfin, il y a une pensée qui m'est venue, vous ne l'avez pas décrit comme telle, et du coup, alors je vous pose la question. Parce que vous parlez, vous avez mis l'accent sur la poussée, la constance par rapport au désir, à l'ignorance. Et ça m'a fait penser, moi, du coup, à la pulsion épistémophilique, mais vous n'en parlez pas comme telle. Et je me dis, du coup, il y a bien une raison à cela, et je vous demanderais voilà, d'en dire quelque chose.
Je dirais d'abord une chose sur la question du voyageur. J'avais pas en tête cette référence de Freud parlant de l'analysant comme un voyageur. Alors sur ce point, il y a au moins une polémique entre Lacan et Freud, puisque pour Lacan, le voyageur, c'est le non-dupe. Hein ? Et oui, dans les noms du père, il y a des développements très intéressants et très surprenants d'ailleurs un peu de Lacan, parce que on a tendance à valoriser le voyage. Hein. Ben pas du tout, Lacan ne valorise pas le voyage.
Hein. Il y a aussi des drômophobies de Freud.
Hein,
il prend justement cet exemple. Que c'est toute son angoisse.
Non, mais c'est pour dire que l'analyse n'est pas un voyage. L'analyse n'est pas un voyage, ni touristique. Il y a des voyages découvertes, remarquez. Ça fait voyage découverte, ça existe. Mais on espère qu'il y a de la découverte, mais il n'y a pas le voyage découvert. Voyage découverte. Enfin bon, c'est une remarque marginale, mais Pourquoi Lacan, au fond, pour sortir juste de l'anecdote, pourquoi Lacan critique le voyage? C'est à cause de la finalité qu'il y a dans le voyage. Le voyage, on part de tel endroit et on va à tel endroit, et donc il y a un vecteur finaliste dans le voyage. Et justement, dans l'analyse, il n'y a pas de vecteur finalisé. La démarche analytique n'est pas téléologique, n'est-ce pas ? La démarche analytique, c'est de briques et de brocs, ça avance là, ça recule, ça attrape un truc là, c'est le contraire du voyage organisé, avec ses étapes, etc. Donc... c'est pas l'errance non plus. C'est pas l'errance, c'est dupe. Hein, l'analysant dupe de l'inconscient, dupe de l'inconscient. Le travailleur, on aurait pu donner ça comme ajouter, mettre en face du voyageur, le dupe, la dupe, pardon, puisque c'est toujours féminin, la dupe des signifiants de l'inconscient, mais pas le voyageur, certainement pas. C'est religieux, le voyage. Hein. La vie est un voyage, on naît, on meurt et on continue plus loin.
Oui. Il y a des doux, le voyage formateur,
l'initiative.
Oui, mais la critique de Lacan avec de l'initiation est à mettre dans le même sac. Oui. Enfin, c'est dans le même tiroir, en quelque sorte. Oui, donc bon, c'était en passant.
Oui. Quand Lacan critique ce thème du voyage, c'est comment on sent sous pour le chrétien, l'homme n'est qu'un pèlerin dans le monde. Il ne dit pas le monde. Le monde n'est rien, il est au-delà.
Oui. Il n'y a pas que le chrétien.
Hein. Ce n'était pas un chrétien que Freud en parlait.
Oui.
Non, il y avait juste qu'il y avait aussi, c'est un peu dans la série de Claude, c'est un élément du romantisme allemand absolument fondamental.
Oui.
Alors, effectivement, je veux dire, c'est dans ce sens qu'il le dit, la dupe, justement. Mais à mon avis, c'est ça la référence essentielle, quand même.
Non, mais la dupe n'est pas la dupe du romantisme allemand, hein, pour Lacan. C'est la dupe des signifiants.
Oui.
C'est pour ça que c'est opposé au romantisme allemand. Le non-dupe, c'est le voyageur est un non-dupe. Hein, c'est ça sa construction. Alors, on peut après être d'accord plus ou moins. Quand on expose ce que dit Lacan, on n'est pas obligé d'être... tout à fait, toujours convaincu, bien sûr, mais en tout cas, sa thèse à lui, c'est celle-ci. L'analysant n'est pas un voyageur, c'est un...
C'est parce que dans le romantisme, c'est pas une critique de la position du voyage dans le romantisme allemand, c'est le contraire. Dans le romantisme allemand, le voyageur, c'est le wanderer, c'est celui qui erre. Je veux dire, c'est tout à fait précis comme référence. C'est pas du tout l'inverse.
Oui, les non-dupes errent.
Oui.
Tu confirmes.
Mais je veux dire, c'est-à-dire que c'est dans la position du romantisme allemand, c'est le choix d'une errance. C'est ce que Lacan critique.
Ben oui, bien sûr, oui. Oui. Bon. Alors, votre question sur la pulsion épistémophilique. Bon. Est-ce que ça existe, la pulsion épistémophilique ? Freud y croit, semble-t-il. Hein ? Freud y croit. Oui, il y croit beaucoup. Il croit qu'il y a une pulsion épistémophilique. Alors, Lacan est beaucoup plus dubitatif là-dessus. Et plus le temps passe, plus il a été dubitatif. pas de pulsion épistémique. Si on prend les textes au terme, hein, parce qu'au début, il essaye quand même de bien soutenir Freud, Lacan, hein, sur beaucoup de choses. Sur beaucoup, beaucoup de choses. Oui, j'ai pris récemment... conscience de ça, à quel point il s'est fait caution de Freud pendant très longtemps. Tu pourrais pas venir t'asseoir. Tu pourrais pas venir t'asseoir quelque part.
Précis de ce vendeur, le vendeur par excellence, c'est Wotan, c'est le patron des dieux, n'est-ce pas, qui erre
précisément, Wagner.
Je veux dire, la dimension de, enfin, le rapport au nom du père est absolument marqué par cette figure qu'on retrouve. Bon, qui date du 16e, enfin qu'on retrouve notamment dans...
Tu devrais faire un petit texte pour le mensuel, non? Sur le Wanderer. Comme ça, tu pourras déplier absolument. C'est vrai qu'il y a plein de recoins sur cette question. Hein. Bon. Alors donc, pour...
Elle n'a pas fini sa réponse.
Mais j'ai pas fini de répondre. Alors est-ce qu'on va me laisser parler quand même? On me pose une question, je dois pouvoir au moins répondre. Donc je dis, il me semble que, on pourrait, c'est une question très compliquée, mais il y a assurément une supposition de savoir. Ce n'est pas une pulsion épistémophilique. Une supposition de savoir et un amour du savoir. Mais ce n'est pas le désir de savoir. Hein. Et donc, plus Lacan a avancé, plus il s'est orienté dans ce sens. Son expérience, c'est important, les années comptent, parce que c'est des années d'expérience analytique quand même, hein. Qui font aussi bien chez Freud. Chacun, quand on vieillit, l'expérience trace des voies en quelque sorte. Et plus il a avancé, plus il a été dubitatif sur l'idée qu'il y aurait un désir de savoir. Par contre, un désir du savoir, moi je fais la distinction, j'ai beaucoup développé ça, il y a un désir du savoir. Le désir du savoir, c'est l'amour du signifiant. Hein? C'est l'amour du signifiant, au fond. Et Lacan en fait même une condition de l'apparition de la psychanalyse, de l'apparition même de Freud. Hein? Le désir du savoir. Et au fond, Milner a un peu repris ces questions-là. Mais le désir de savoir, c'est autre chose. Hein. Le désir de savoir, c'est pas seulement le goût du signifiant. Le goût du signifiant, ça pousse à idéaliser le gai savoir. Hein. Les signifiants, on adore, on développe, on s'amuse, bon, etc. Le désir de savoir, c'est plus du côté de désir de savoir les conséquences du savoir inconscient. Les conséquences, elles sont pas très, elles sont plus difficiles, hein, les conséquences, puisque les conséquences, c'est quand même, comment ça se dit, pas de rapport sexuel, ça se dit castration, ça se dit on commence à savoir pour ne pas y arriver finalement. La vérité, on court derrière, mais on l'attrape pas. C'est ce que j'appelais la torture, finalement. La douce torture de l'analysant au fur et à mesure qu'il avance. Donc voilà, quelques ébauches sur votre question.
Il y a Carlos Guevara qui a une question. Je ne sais pas si un micro-baladeur, tu parles bien fort.
En fait, je voulais faire juste deux petites remarques, en fait, par rapport à la question du voyageur.
Décidément.
Il y a la référence, en fait, au voyage comme destination, mais ce n'est pas la seule référence. En fait, on peut penser le voyage comme une expérience. Et donc, je pense qu'il faut souligner ça, parce que je pense que la remarque du voyageur pour l'analyse, c'est au sens de l'expérience. Ce n'est pas pour rien qu'on parle, en fait, d'un parcours analytique. En fait, c'est-à-dire il y a quand même cette possibilité pour celui qui a fait une analyse de dire, par exemple, tout ça pour ça. mais sans regretter quand même l'expérience qui lui a permis quand même de faire, disons, en fait,
c'est tragique. Jours,
quoi, en fait, on va pour le dire d'une certaine manière. Et deuxièmement, par rapport à la question de l'exposé des collègues, et je voulais remarquer que moi, j'ai beaucoup apprécié voilà, tout ce que vous avez dit sur la demande. Et en même temps, en fait, il y a aussi la question de l'offre analytique, puisque il y a la présence de l'analyste, mais il y a aussi quand même quelque chose du côté de l'offre, donc c'est ce qu'on appelle la règle fondamentale, en fait, une offre qui implique quand même une certaine conception du savoir, justement, comme vous l'avez dit à l'instant. Donc, je voulais voilà, souligner aussi que dans cette question de l'offre en analyse, il y a la demande, il y a la présence, mais il y a aussi l'offre du côté de l'analyste.
Oui, oui, c'est vrai, je l'avais mentionné, je ne l'ai pas dit parce que j'ai sauté quelques phrases parfois. Bien sûr, il demande parce qu'on lui a offert de demander. Hein, mais c'est le mot psychanalyse qui fait cette offre. L'offre, elle précède la demande, c'est toujours le cas. Hein. Elle fait partie de la demande même, oui. Alors, oui, l'analyse, le voyage est une expérience... Certainement, mais toute expérience n'est pas un voyage. Voilà. Donc, il y a des expériences qui ne sont pas des voyages. Il y a beaucoup de genres d'expériences. Donc, le fait que l'analyse soit une expérience ne prouve vraiment pas que ce soit un voyage. Non, je crois que sur ce point, moi, je donne assez raison à Lacan. Hein. C'est pas toujours le cas. Hein. Vous remarquerez que je n'ai mis aucune opinion personnelle sur son idée de la multiplicité des entretiens préliminaires. J'ai expliqué ce qui pouvait le justifier, mais je n'ai pas dit ce que j'en pensais. En tout cas, je pense que c'est très utile comme règle régulatrice. Après, les applications des règles sont multiples.
Alors, il y a une question au fond d'Agnès Willem, et puis...
Moi aussi, j'ai une question à poser.
D'accord.
Je ne sais pas du tout si la
Non, mais je peux parler. Je peux parler sans
Je m'étais posé la question des analyses qui ne duraient pas. Et j'avais interrogé en partie pourquoi l'analyste y est pour quelque chose. Et je sentais bien qu'il n'était pas seul. Enfin, il y avait quelque chose qui ne dépendait pas de lui. Et là, il me semble que je trouve un élément de réponse dans « Il faut une demande qui porte un désir, portée par un désir. » Peut-être il y a des demandes d'analyse qui sont des demandes et pas une demande. C'est-à-dire des demandes transitives, d'aller mieux, de sortir de l'embarras, et pas une demande d'un être.
Oui, oui.
Parce que là, je le Et le deuxième point qui me heurte toujours, c'est l'analyse qui ne travaille pas. et en même temps, je suis d'accord.
Ah bon, bon.
Et donc, je lui dis, est-ce que donc, vous avez quand même accepté l'idée de la discipline, ça? Au moins ça. Et je me demandais si le travail de l'analyste, c'est du côté de cette présence.
Bah, vous savez, enfin, je ne sais pas si je vais vous répondre tout de suite, mais il travaille pas, mais il lui revient ce que Lacan a appelé l'acte. C'est pas tout à fait rien. Hein, ça, pour le coup, donc on le dépossède pas quand même en disant qu'il travaille pas. On peut pas. Celui qui produit quelque chose, hein, au sens de produire l'émergence de ce qu'on appelle du matériel, ça comprend du sens, ça comprend des signifiants, ça implique du dire, c'est l'analysant. Ça, ça ne fait pas de doute. Alors, l'analyste intervient là-dedans. Il intervient, mais c'est pas lui le producteur. Hein, c'est pas lui le producteur. C'est ça que ça veut dire, juste. Hein, ouais. Mais ça vous chiffonne, je sais pas pourquoi. Oui. C'est... Bon. Oui. Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais souligner quelque chose. Ce que j'ai ciblé, c'est avant l'analyse, hein, aujourd'hui. Et chez Lacan, ça, c'était très net. Enfin, dans mon expérience, évidemment, chacun a la sienne. Mais chez Lacan, c'était très net. Il y a avant et puis il y a quand on commence. Hein. Et là-dessus, il me semble qu'il a toujours été assez catégorique. Hein. Donc, tout ce que j'ai développé, c'est pas tellement après comment se fait le travail, comment il se soutient, comment il se relance, comment il s'arrête, trop tôt, pas... toutes les questions de l'année dernière. Mais c'était avant. La production de l'analysant, ou plutôt, c'est pas la production, non. C'est pas la production, ce serait pas le bon terme. Je vais chercher un terme, mais oui. Oui. L'émergence. Oui. Bon, on trouvera un terme. Oui, il y avait Sol qui voulait dire quelque chose.
Non, c'est juste dont Agnès on disait que parfois en effet l'analyste peut-être aimerait mieux travailler et du coup je pensais à ce que disait Sylvie, la question que a posée Miyuki sur l'identité de l'enseignant. Mm-hmm. Est-ce que tu voudrais bien développer un peu ce point sur lequel tu es passé un peu vite entre les
premiers? Oui, d'accord. Non, c'était juste introduire dans le destin finalement de celui qui se soumet à l'analyse ce qui se produit après. C'est par rapport à lui-même d'ailleurs, hein, et par rapport à son enseignement, que Lacan a fait référence à cette possibilité-là. C'est-à-dire que quand on enseigne, on n'occupe pas la position d'un semblant de savoir. Quand on enseigne de manière authentique, on enseigne, on produit un savoir. Et on est causé dans cette production-là par un objet. Il disait qu'il enseignait sous le regard de Freud. C'est à ça que je faisais allusion. C'est pas du tout le travail. Pardon ?
Là, il travaille.
Ah oui, là, il travaille. Mais il ne travaille pas comme analyste. C'est pas comme analyste. Quand il enseigne, il travaille comme analysant. Voilà. Mais c'est un analysant d'au-delà
du moment. C'est un analysant hors de la cure. Voilà. C'est tout un thème, ça, la question de l'analyse que tu as bien fait de situer, l'analysant hors de la cure. Oui.
Il y a une expression de Lacan que je n'ai pas bien comprise. Il dit « Je ne suis pas un enseignant, je suis un enseigneur. »
On dit ça une fois, oui.
Ce
Je peux poser ma question? Oui, Colette.
Oui.
J'ai bien apprécié, bien sûr, le travail que tu nous as proposé. Il y a un point qui m'a arrêté, parce que je crois qu'il y a un moment, il y a deux moments où Lacan parle de cette question de la demande, de la vraie demande. Et j'ai le souvenir que dans les entretiens dans les universités nord-américaines, il parle de la vraie demande et reprend la même chose, la question de quelque chose qui pousse, mais il ajoute un symptôme dont il veut se débarrasser. Est-ce que tu penses qu'il faut articuler la question?
Oui, bien sûr, oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la demande...
Oui, oui, tu as tout à fait raison de poser cette question, parce que j'ai condensé en disant espoir. Mmh. Espoir. Pourquoi il entre dans le travail ? Parce qu'il a un espoir. Mmh. Alors... l'espoir, c'est l'espoir
de la révélation,
de la révélation que porte le mot et la demande de psychanalyse, oui, bien sûr, mais c'est une révélation qui, depuis Freud, est connectée à l'idée de son effet sur le symptôme, qu'on touche au symptôme. Alors, ce qui pousse vers la psychanalyse, c'est pas seulement parce que le mot psychanalyse existe, c'est parce qu'il y a des symptômes, bien entendu. Il faut tenir ces deux choses ensemble, oui, bien sûr. Une révélation, il cherche une révélation sur la cause, au fond, celui qui entre. Même s'il ne se formule pas dans ces termes, évidemment. Oui, oui.
Alors, Colette, tu dis que c'est juste. Le monde psychanalyse existe et ça suffit à toi.
Oui.
Il court le monde.
Oui.
Il faut quand même qu'il y ait de temps en temps des gens pour lui donner un petit coup de pouce à ce mot.
Bien sûr, oui. Et alors? Oui. Et qu'est-ce que tu crois qu'on fait? Non, mais quelle est la question? Hein? Quelle est la question?
Les modalités du coup de pouce en question.
Tu parles de...
varie quand même, suivant les époques, les lieux, etc. Il y a un petit effort, en fait. Ça ne court pas tout seul. Dans le Lacan, ça courait tout seul.
Non, du temps de Lacan, ça ne courait pas du tout tout seul. Ça, c'est une illusion rétrospective, absolument. Mais bien sûr, alors il y a deux types de coups de pouce. Il y a le coup de pouce qui se passe dans chaque fois que quelqu'un s'adresse à un analyste. Hein ? Chaque fois que quelqu'un s'adresse à un analyste, et par exemple, quand quelqu'un s'adresse à l'analyste, pas forcément avec l'idée d'une psychanalyse, et quelquefois même sans savoir ce que c'est qu'une psychanalyse. Bon. Et donc là, c'est pour ça que j'ai dit que quand la demande, il n'y a pas une demande d'analyse, il faut la faire émerger. Donc là, c'est le coup de pouce interne aux entretiens. Et puis, évidemment, il y a le coup de pouce au niveau de ce qu'on appelle l'extension. L'extension, à savoir la question que nous nous posons de comment rendre toujours actuel ce qu'implique le mot psychanalyse même, bien entendu. Oui, 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 bien sûr, c'est pas... Le mot, il n'a pas des petites ailes. Ce n'est pas encore un mot. J'étais très frappée d'apprendre ce que je ne savais pas au début de ton exposé, que le mot analysant est passé au dictionnaire. Alors ça c'est quelque chose. C'est un grand signe. Hein.
C'est pas, le sens n'est pas encore attesté, c'est-à-dire c'est
oui,
pas
oui, mais enfin,
accepté par l'académie.
Oui, 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 oui. Oui, oui. Donc c'est oui.
Le grand oui. Robert.
Oui.
De quand date la citation de Pache?
Alors, le livre est paru en 1993, donc après la mort de Pache. C'est pas si vieux, mais l'entretien lui-même, je ne sais pas, parce que c'est un recueil de textes. C'est dans le recueil des textes de Pache, Le passé recomposé, qui est paru en 99 au Fil Rouge. Je puf.
Oui.
Isabelle, sur votre idée, tant qu'on n'a pas fait émerger la demande du côté de la personne, on peut l'appeler analyser.
Candidat.
Non.
Au départ, les patients peuvent venir effectivement, comme vous dites, un peu sans savoir ce qu'ils vont chercher. Ça prend quand quand même. Mais du coup, est-ce que tant qu'on n'a pas réussi à l'amener à émerger cette vraie demande, est-ce qu'on peut quand même dire, analysant, est-ce qu'on peut l'appeler
Si on l'appelle analysant avant qu'il le soit, le mot perd son côté pratique, disons. Hein, ça perd son côté.
Il y avait une chose tout à l'heure quand vous disiez aussi les symptômes qui poussent aussi à l'entrée à l'analyse. Il y avait aussi à la fin, moi ce que j'associais, c'était le symptôme qui pousse à faire la demande de passe.
Vous pensez que c'est un symptôme qui pousse à faire la demande de passe ? Non, mais ce serait une grande thèse assez carrée.
Si on en découvre de ce dont il s'agit, sur quoi on se trompe, on arrive à dire bah oui. Quand on a découvert un peu ce qui était de l'ordre de ce qui nous empêchait, quand ça se révèle, je veux dire, et qu'on a fait tous les. Il y a quelque chose comme ça qui pousse aussi à la fin d'aller en partager ou en dire quelque chose, et des fois que ça peut.
Oui, apparemment, il n'y a pas tellement de gens qui sont poussés. Hein. Non, mais c'est un fait. Oui. En fait, il y a plusieurs façons d'utiliser les termes, aussi bien analyste qu'analysant. En général, quand on parle maintenant... on est analyste. On entre, on ouvre la porte, on est analysant. Ça, c'est l'usage dégradé du terme. Hein, l'usage dégradé. Mais qui est partout. Qui est partout, surtout pour l'analyste. Surtout pour l'analyste, aucune question. J'ai dit que j'étais analyste, donc je le suis. Bon. Donc, ça, c'est l'usage sans intérêt, disons. Donc, il y a toujours intérêt... Même si on ne va pas corriger l'usage commun des termes, il y a toujours intérêt à revenir à une définition la plus radicale possible, et de ce qu'est l'analyste et de ce qu'est l'analysant. Parce que sinon, qu'est-ce qui nous différencie du psychothérapeute qui reçoit quelqu'un? Qui le fait parler, qui va peut-être obtenir des bénéfices d'ailleurs du fait de parler, c'est un fait, hein. Parler a des effets, même hors de l'association libre. Donc, si on veut maintenir l'idée que le discours analytique, ça n'est pas la psychothérapie, il faut quand même qu'on tienne très fermement sur les termes. Donc,
c'est le sujet du prochain stage organisé par Jean-Jacques Gorog et par moi-même, le 3, 4 et 5 février.
C'est quoi le sujet?
La psychanalyse et les psychothérapies.
Ah.
Psychothérapie et la psychanalyse.
Oui, d'accord. Ouais.
Il y a un Radou qui souhaiterait intervenir.
Ce qui m'inspire un peu ce débat, c'est que quand on dit psychanalysant, c'est le psychanalysant lacanien.
Non.
Pourquoi?
Tout le monde dit psychanalysant maintenant. Hein.
Oui, mais enfin, c'est pas la même pratique. C'est autour d'un champ sémantique quand même, qui fait que on parle du champ lacanien. On dit psychanalysant, c'est lui qui travaille, on dit l'alambic, les signifiants de l'inconscient. Ça, c'est un champ sémantique, en tant que disons, qui définit un peu ce qui est psychanalysant. Et après, on a vu même aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas. pas s'empêcher, enfin, Lacan aussi l'a fait, on utilise un autre champ sémantique où on trouve, disons, destin, on trouve révélation, on trouve espoir, qui sont des signifiants, disons, qui ne sont pas strictement lacaniens. Hein.
Bah, désir, c'est pas strictement lacanien. Demande, c'est pas strictement lacanien.
Non, mais je veux dire,
sujet, c'est pas strictement lacanien.
Ils sont utilisés dans d'autres champs de la psychologie.
Bah oui, c'est ça. Oui, oui.
Et ça fait, ça, ces signifiants-là, ça fait très vite hiérarchie. Hein.
Les signifiants, lesquels ?
Ben, espoir, révélation, enfin, ça donne quand même consistance à l'autre, d'une certaine manière. Alors, la non-dupe, les signifiants inconscients, c'est autre chose. Ça définit mieux, je dirais, le psychanalysant lacanien.
Oui, parce que vous croyez que le psychanalysant lacanien, qui rentre dans le transfert... Pour lui, espoir, c'est un mot qui ne s'applique pas. Attente, c'est un mot qui ne s'applique pas. Bon. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, celui-là, alors. Je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, quand vous dites que c'est l'analysant, c'est très lacanien, moi, j'ai idée, quand même, je crois aussi que c'était l'idée de Lacan, d'ailleurs, que c'est pas seulement qu'à l'IPA ils utilisent maintenant le mot analysant, mais je crois qu'il y a des analysants chez les analystes de l'IPA.
Absolument.
Par contre, je vois plus de différence entre les analystes de l'IPA et les analystes lacaniens. La grosse différence, elle me paraît là, parce que c'est même avec un analyste de l'IPA, quelqu'un qui a ses symptômes, qui vient en parler, les analystes de l'IPA, ils essayent quand même de faire entrer dans ce qu'on appelle l'association libre. Et donc dégrainer un peu des paroles, et dans les paroles il y a des mots de la langue, et donc ça fonctionne. Même si l'analyste n'entend pas ou pense autrement ce qu'il fait. C'est comme ça, en tout cas, que je sais que Lacan, là-dessus, il était quand même pas très... Il n'était pas sectaire, hein. Quelqu'un racontait ça, qu'il va voir Lacan, et il a déjà fait une analyse, et il dit à Lacan, j'ai fait je ne sais pas combien de temps d'analyse. Il dit, évidemment, c'était... En s'excusant, quasiment, c'était avec quelqu'un de l'IPA. Et Lacan lui répond, moi aussi, j'ai fait mon analyse avec quelqu'un de l'IPA. Donc... C'est pour ça que l'analysant n'est pas le produit de l'analyste. Il est le produit. Donc.
On a changé quelque chose dans la façon de faire des analyses, Lacan. C'est pas.
Oui. En tout cas, il ne le reconnaissait pas. Hein. Vous savez, quand en 70, quand quelqu'un lui a dit, Monsieur Lacan, vous qui avez changé la psychanalyse, il a dit, mais... Il a réagi, il a dit, mais j'ai pas du tout changé la psychanalyse. En fait, dans cette question, en fait, ce qui est en jeu, c'est... jusqu'où va le pouvoir déterminant du dispositif analytique, hein, indépendamment des personnes qui entrent dedans. Et quand même, le truc crucial, je crois, c'est ce que Freud a posé, hein, association libre d'un côté et abstention de la neutralité bienveillance de l'autre. Et dès que ça s'est posé... On peut avoir un analysant pour peu que le sujet ait la disposition à ça, il me semble. C'est plutôt comme ça que je vois les choses.
Il y a Marc qui a levé la main. Et Sol ensuite.
Oui, je voulais demander à Sidi, tu as mis l'accent sur l'analysant, en fait, son analyse avec l'analyse, cela dit, ça n'enlève pas tout le pouvoir à l'analyse.
Non.
Effectivement, il y a l'abstention de parler connaître, mais aussi de temps en temps la nécessité de sortir de l'abstention, de se manifester, etc. Donc, comment tu situerais ce pouvoir ?
Oui, il s'agit juste. Le pouvoir de l'analyse, c'est ce que Lacan a toujours dit.
c'est-à-dire ce qui est, relève de la position dans laquelle l'analysant le met du fait du transfert. Il tient du transfert un pouvoir, il a une autorité, mais c'est en tant que, qu'objet ou en tant que semblant d'objet que ça opère. Donc c'est, l'analysant fait son analyse avec. C'est-à-dire que le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il y a une conception de l'analyse, c'est celle où on relève la position de Pache, où l'analyste analyse l'analyse. L'analysant est un objet d'analyse. Alors qu'il me semble que l'invention de l'objet, Lacan met ce qu'il a appelé d'abord disparité subjective. Ce n'est pas, il y a un sujet et un autre sujet, et qu'ils ont des subjectivités ou des positions subjectives différentes, c'est qu'il y a un qui n'opère pas comme sujet. D'ailleurs, j'ai gardé une petite citation là, que j'avais juste. Voilà, Lacan disait ceci, il est dès lors à avancer que le psychanalyste, dans la psychanalyse, n'est pas sujet, et qu'à situer son acte de la topologie idéale de l'objectita, il se déduit que c'est à ne pas penser qu'il opère. Il me semble que c'est ce point-là qui fait tourner les choses et qui constitue véritablement un changement fondamental par rapport à la conception de l'analyste qui analyse. Au sens de l'analysant serait l'objet d'analyse et l'analyste l'analyse.
Alors, oui, moi, c'était pour revenir sur la question des entretiens préliminaires. Quand Lacan disait qu'il pouvait souvent durer plus longtemps, ce qui prouve que c'est certainement quelqu'un de très patient. Mais il me semble que on n'a pas du tout regardé les choses du côté de ce que un candidat à l'analyse vient aussi dans la mesure où il a déjà une idée un peu de ce que peut être la psychanalyse, ou même sans le savoir, au cours de ces entretiens, au fond, teste. Enfin, Lacan disait que l'analysant met à l'épreuve l'analyste, et je pense que déjà, d'entrée de jeu, si je puis dire, déjà, dans ces entretiens, il y a mise à l'épreuve de l'analyste. Et donc, je crois que vous avez un peu, à ce sujet, je crois, parlé d'angoisse. C'est vrai que c'est une, ça peut être, enfin, pour l'analyste, de s'abstenir et en même temps.
Non, je parlais de l'angoisse du candidat à l'analyste quand l'analyste maintient le suspens de son accord.
En même temps, vous évoquez la difficulté, une certaine difficulté aussi par rapport à cet idéal de l'analyste qui s'abstient, qui ne cède pas. Que c'est parfois difficile, justement, dans la mesure où l'analysant vient aussi tester l'analyste et voir si, voir s'il a envie de que cette personne devienne son analyste. Quoi. C'est, ça se joue aussi dans ce
Sens. C'est pour ça que j'ai souligné qu'en principe, l'analyste ne demande pas. Il ne demande pas que celui qui arrive fasse une analyse. Il est là pour la rendre possible. Il est là pour la rendre possible, bien entendu. C'est la grosse difficulté, en fait. Il n'opère pas en pensant, mais tout le problème, c'est savoir comment ça opère. Il se fait de l'objet A, et après, comment opérer en tant qu'objet A ? Ça, c'est le gros.
Justement, ça pose la question de savoir s'il n'y aurait pas à distinguer l'entrée en analyse et l'entrée dans le discours analytique, au sens de ce que Lacan présente comme l'analyste en position de semblant d'objectif. Il me semble que ce n'est pas là d'emblée non plus, même en début d'analyse. Qu'est-ce que tu en penses?
Si, je crois que c'est tout de suite, moi. Oui, oui. Ah oui, ce serait redéveloppé, ça, oui.
Alors, il y a trois personnes qui m'ont demandé. Il y a Sol, Carlos et Colette Seppel. Et puis on s'arrêtera là.
Seul. Une remarque à propos de cette anecdote de Lacan qui dit, en réponse à celui qui dit, j'ai fait une analyse, mais avec quelqu'un de l'IBA, et Lacan lui répondant,
moi aussi,
j'ai fait mon analyse avec l'analyse de l'IBA, et ça va, j'aime beaucoup cette anecdote, c'est tout à fait cohérent avec tout ce qu'on a dit ce soir.
Oui, oui,
c'est l'analysant et le travailleur, c'est lui qui fait le travail avec. Il y en a qui le font avec l'analyste de l'IBA, et ça se ressortit que j'aurais la responsabilité de l'analysant, posant ce qu'il fait, lui, de son analyse. Il y a la responsabilité
de l'analyse.
Et il y a aussi la responsabilité et le désir de l'analysant.
C'est d'ailleurs devenu une expression courante qui n'était pas là il y a quelque temps. Disons, on dit. Je m'analyse avec. Avec qui vous vous analysez ? Hein, c'est devenu une expression courante. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt l'inverse. Oui, oui. Oui. Ouais.
Carlos ? S'il vous plaît.
Je voulais d'une certaine manière récupérer un peu la question tout à l'heure sur le pouvoir, disons, de l'analyse. En fait, au-delà du pouvoir, parce que tu as bien répondu sur la question du sujet supposé savoir, c'est la question de l'action de l'analyse. Vous voyez, parce que quand même, ce qui me paraît important de souligner, c'est que l'analyse, en fait, certes, il y a la présence, il y a l'autre, en fait, analytique au départ, mais il y a quand même l'interprétation.
Parce
que bon, si on situe quand même la dimension de l'interprétation, ça nous montre bien que c'est un analyste, en fait, qui ne fait pas juste. Qui ne fait pas le mort, quoi. Il intervient d'une certaine manière, il travaille, disons, d'une certaine manière aussi, même si...
Bien sûr, oui.
C'est quand même la dimension de l'interprétation qui fait aussi de l'analyse.
L'intervention, ce n'est pas un travail, oui.
Voilà, c'est distinct quand même des autres interventions.
Oui, oui. Qui c'était l'autre question ?
C'est pas elle.
Pourquoi ce n'est qu'en 67 qu'il introduit le terme de psychanalyse ? Pourquoi au moment de la proposition et pas avant ? Voilà.
Non, c'est vrai que ça arrive très tard. C'est vrai que ça arrive très tard par rapport.
Avec le transfert, on a déjà dans l'idée et la Galma dans ce trac que. La faisant transition d'objet, l'idée du travail de la personne en analyse, on l'a déjà avant. En écoutant, parce que je me demande pourquoi c'est seulement en 67 qu'il a produit ce terme-là.
Oui.
Je me suis posé la question là tout de suite.
Oui, oui.
Frédéric nous a expliqué comment le psyché s'en va entre 67 et 68. Entre 67 et 68. Comment passe du psychanalysant à l'analyseur.
Mais
voilà,
une question. Frédéric, comment est-ce que vous avez dit ?
C'est peut-être quelque chose qui pourrait s'éclairer en comparant la première version de la proposition et la seconde. Parce que dans la première version de la proposition, il avait écrit la première ligne S, le signifiant du transfert qui va vers le SQ, un trait sous les deux, et dessous la supposition de sujet supposé savoir. Et il corrige dans la deuxième rédaction en disant la signification du sujet supposé savoir est à écrire sous l'empan supposant du premier signifiant. Ça veut dire que ça sépare complètement ce que fait le SQ. Qui a un signifiant quelconque, dont on attend une réponse pas quelconque, mais qui n'est plus le signifiant supposant. Donc peut-être ça éclairerait ça.